Et vous écoutez France Culture. Nous, c'est juste le ciel, mais c'est déjà beaucoup. Alain Damasio. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui reçoit ce soir l'écrivain Alain Damasio, et ce à l'occasion de la sortie aux éditions La Volte de son troisième roman, Les Furtifs, dystopie chorale, méditation sur la nature du sens et l'espérance de la langue, et surtout discours des misères et des malheurs de ce temps présent et à venir. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre qui reçoit, je le répète ce soir, donc Alain Damasio. Bonsoir Alain. Bonsoir. Damasio, bienvenue à Mauvais Genre. Vous êtes déjà venu deux fois dans cette émission. La première fois c'était en 2004, je crois, c'était
2004,
pour la Horde du Contrevent.
La Horde, et à l'époque on avait deux heures pour s'exprimer.
Bah voilà, c'était un autre temps, mais et donc les deux heures c'était pour la deuxième fois, c'était pour un recueil de nouvelles.
Tout à fait.
Effectivement, ouais. Mais là, donc en une heure, nous allons concentrer le propos, vous allez voir, vous allez être fasciné. Je me souviens, en 2004, vous accueillis après le festival de SF de Nantes, je me souviens encore, Jacques Baudoux passait dans les rangs en disant « Eh, vous avez lu L'Ordre du Contrevent ? Non, c'est quoi ?» Ben, c'est un chef-d'œuvre, il faut pas le rater. Il allait de groupe en groupe, comme ça, et effectivement, on suivait Jacques Baudoux, parce que, et on a eu raison, puisqu'effectivement... Et La Horde du Contrevent était à la hauteur de ce que nous avait dit Jacques. Et puis, effectivement, la suite a montré que, bah, ma foi, persévérer diabolicum, Alain Damasio.
Merci, merci.
Il est avec Nicolas Martin. Tiens donc.
Ben oui.
Comment va-t-il?
Eh ben, il va bien lui-même.
Là, il y a un raptus espace-temps.
C'est
là.
Ça, ben, comme depuis hier, on ne se quitte plus.
Scientifique, voilà, c'est ça. Tout à fait. On va continuer à compagnonner. Et Jean-Luc Rivera. Jean-Luc Rivera. Une actualité, Jean-Luc Rivera?
Pas vraiment, parce que Les Furtifs remplissent l'actualité récente.
Absolument. L'actualité en littérature francophone depuis quelques semaines, eh bien, ce sont Les Furtifs de notre invité de ce soir, Alain Damasio, paru aux éditions La Volte. Mais avant d'ouvrir cet auguste volume, on va en ouvrir un autre, notre encyclopédie pratique des mauvais genres, et Céline Duchesnay ce soir.
Eh bien, ce soir, nous allons parler d'Otomo, Otomo de Manuel.
C'est un gros gros champ de mon travail depuis 30 ans, la performance. J'ai commencé vraiment, c'est vraiment ce qui m'a touché. Moi, j'ai été assez marqué par les actionnistes viennois, j'ai été vraiment marqué aussi par des artistes type Abramovitch, Gina Payne, etc. Et des gens qui avaient un mode opératoire déjà au niveau de l'engagement du corps, bon, très fort, Hermann Nietzsche ou des gens comme ça, Günther Bruce, où d'un seul coup on va vraiment dans la matière, dans les tabous, dans les fluides, tous les fluides d'ailleurs, et ou des rituels d'Hermann Nietzsche où il tuait des animaux, etc. On faisait des grandes libations dionysiaques pendant deux jours, etc. Donc ça m'avait marqué. Là, ce qui m'intéresse, c'est de créer une poétique, de créer un instant, et un instant qui soit pas juste en tant que spectateur, ok, on est confortablement en train de regarder un truc, c'est qu'il y ait une tension émotionnelle et que ça vienne titiller à des endroits où on se dit ah ok. La performance permet cet endroit-là, c'est-à-dire cette rencontre radicale avec le spectateur qui renvoie au rite, c'est-à-dire presque au théâtre des origines, et c'est pour ça que ça m'intéresse. Mais c'est revenir dans un espace cathartique pur et dur, où d'un seul coup, le spectateur, ok, on va pas, c'est pas au théâtre ce soir, on va passer un bon moment, et puis on se boira une petite bière après, on va rentrer à la maison. Là, mon idée, c'est que ça vampirise quand même un maximum le spectateur, et qu'il reparte, et que ça le bouleverse, et que voire même, et que ça le bouleverse suffisamment, peut-être pour qu'il revienne le lendemain voir la suivante.
Otomo de Manuel est performeur, comédien et metteur en scène. Haute figure de la scène fétiche et queer, il avait créé avec son ancienne compagnie Materia Prima le Cabaret Rouge, un cabaret mutant dont tout le Grand Est se souvient encore, tant les fantasmes suscités furent forts. Lui qui proposait des soirées expérimentales, étranges et fétiches au Totem à Maxéville, près de Nancy. Aujourd'hui, avec sa structure Ordinary Damage Movements, la performance reste l'une des formes d'expression favorite d'Otomo de Manuel. Aura Miracle, par exemple, est une série de 4 performances basées sur la figure du guerrier qui interroge aussi bien le parcours personnel d'Otomo de Manuel, qui vient d'une famille de militaires, que ses racines, lui qui est franco-américain, d'origine afro-américaine et amérindienne. Otomo de Manuel nous livre ici le 3e oracle de cette série performative.
Je reprends un rituel Cheyenne, réel, qui existe, qui consiste à se mettre 2 crochets dans le dos et à tracter un monticule de crâne de bison. En marchant, voilà. Il y a une variante qui s'appelle Okipa, qui consiste à se mettre 2 crochets sur les pectoraux et de se faire suspendre à un arbre et de créer une transe jusqu'à ce que les chairs pètent. Donc moi, je prends ce rituel-là. Donc je prends 2 crochets de 3-2 que je me mets en gauche-droite, enfin qu'on m'installe. Dans le dos, je suis nu avec une peinture de guerre où je ne conserve que la coiffe qui est une vraie coiffe d'Hulk Soldier que j'ai mis beaucoup de temps à trouver qui vient d'une réserve de Auckland et je ne conserve que cette coiffe et cette peinture guerrière. Je suis donc à nu dans l'espace public avec ces 2 crochets. J'arrive avec un drapeau américain et là, sur un endroit qui est l'espace de départ, là, il y a une palette avec du coca. Il y a 2 sachets en plastique et du coca dedans. On va m'accrocher cette palette dans le dos. Je vais prendre les 2 sacs de coca et je vais partir dans une sorte de déambulation urbaine où les gens vont me suivre par rapport à ça. Donc il y a une sorte d'image surréaliste, étrange, de cette espèce de guerrier amérindien qui se balade dans la ville en tirant une palette de coca et qui se trimballe avec des sacs de coca. Et je vais arriver à un endroit où il y a une mallette. Je vais m'arrêter. On va m'enlever les crochets, je vais faire une danse avec les sacs jusqu'à ce qu'ils pètent et il y a les coca qui vont se répandre partout. Je vais enlever ma coiffe, il y a tout un espace rituel, une sorte de sun dance comme ça, ou une sorte de danse au soleil. Et je vais ouvrir la mallette et là à l'intérieur il y a quoi ? Il y a une chemise blanche, une cravate, une veste noire, un pantalon noir, je vais m'habiller avec ça. Et une paire de bottes à talons de stripteaseuse qui viennent du Texas avec le drapeau américain sur ses bottes. Et une fois que je suis habillé, je me pose sur ma mallette, je bois un coca et je prends ma mallette et je pars bosser et je m'en vais. Donc voilà. Après, sur cet impact, qui est à la fois où je cherche un impact émotionnel, je me mets en état limite parce que c'est très radical au niveau du corps. Pour envoyer un impact au spectateur un peu stupéfiant, bouleversant, qui va le mettre en position d'écoute et d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, en même temps en utilisant des codes qui sont somme toute assez claires, même si on ne connaît pas le rituel Cheyenne, on voit quand même bien une figure d'Indien, entre guillemets, j'aime pas ce terme-là, mais d'Indien, d'Amérique, qui en peinture de guerre et qui, effectivement, en même temps, la tension qui se passe avec ce drapeau américain qui est permanent du début à la fin, le coca, et d'essayer d'interroger quid des natifs américains sur le sol américain aujourd'hui. Si j'avais vraiment envie d'en parler dans le fond et de dénoncer quelque chose ou quoi au caisse de façon frontale, j'ai les mots pour le dire. Là, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait une tension. Alors, sans rentrer dans un discours antipatriarcal, pur et dur, queer, militant, mais il y a quand même cette idée que, voilà, je crois que cette domination masculine, elle prouve aussi ses limites, ses dégâts, et qu'à un moment, à l'intérieur de ça, il est peut-être temps de créer un rééquilibre dans l'assiette. Et donc je re-questionne et je re-féminise et je déconstruis une figure masculine, la mienne, une figure guerrière, au travers d'une féminisation.
Pour suivre toute l'actualité riche d'Otomo de Manuel, rien de tel que les réseaux sociaux, les liens sont disponibles sur la page de Mauvais Genre. Sinon, vous pourrez le retrouver au Centre chorégraphique de La Rochelle le 24 mai, dans un duo avec la danseuse Yulia Plotnikova, le nom de cette création, Locus. Et le lendemain, le 25, rendez-vous à Aubusson pour « Et seuls les chiens répondent à ta voix », un texte de Tariq Nouhi, mis en scène par Karel Prugno.
Merci Céline pour cette entrée. Donc Otomo de Manuel de notre encyclopédie pratique des mauvais genres. Un homme qui n'aime pas au théâtre ce soir, mais est-ce concevable, Jean-Luc Rivera ?
Absolument
quand,
pas.
Quand même, voyons. Mais Otomo, évidemment, c'est un clin d'œil qui nous est tout à fait sympathique à nous. Alain Damasio, réaction face à ce disciple des actionnistes viennois.
Ah oui, ça
doit quand même vous être sympathique à l'oreille, tous ces univers d'actionnistes.
Oui, moi, ça me rappelle un unitaire de Yann Kounen, justement, qui s'appelait Sur le vol des cigognes, et sur lequel il y a une scène comme ça, de suspension dans une boîte de nuit, qui est assez impressionnante et qui marque quand même dans le film. Hein. Mais j'ai du mal à aller dans ces zones-là. Je suis pas encore assez courageux, assez ordier pour tenter ces expériences.
Mais c'est quand même une manière un petit peu de franc-tireur, comme ça, d'assumer une sécession, une marginalité violente, ce qui doit vous être sympathique.
Ah oui, mais après on choisit ces sécessions.
Chacun sa manière de faire sécession, et la vôtre, eh bien, ce moment est depuis longtemps. Alain Damasio, c'est l'écriture, la littérature, et vous êtes avec nous, je le répète, pour ces Furtifs, qui sont l'événement littéraire du moment aux éditions La Volte, un roman donc qui nous est offert avec donc un disque, avec une création musicale. On en écoute un extrait.
Tes mains frissonnantes et liquides. Ici vole Velvi, suspendu.
Un album de Yann Péchin qui est à télécharger en même temps, donc que l'on peut lire le roman d'Alain Damasio, Les Furtifs. Cet album, donc, c'est une conception a posteriori ou simultanée de l'écriture.
Ça a été simultané de l'écriture, puisque c'était, bon, j'étais dans les derniers chapitres, mais on a commencé à enregistrer effectivement sur les trois derniers chapitres, et donc la matière était encore vibrante, encore mouvante, et c'était compliqué de choisir dans l'immense masse de textes, puisqu'il y a 688 pages. Mmh.
Chacune comptant pour 4, quand même.
Voilà. Il y a des épaisseurs dans la page. Et c'était, voilà, j'ai suivi ma ligne de émotionnelle pour choisir vraiment les textes qui me touchaient le plus. Et donc, on part dans les textes qui parfois sont narratifs, parfois poétiques, parfois politiques. Et surtout, Yann a fait un travail extraordinaire de composition uniquement à la guitare. Tout ce qu'on entend est à la guitare. Mais il avait amené 12 guitares dans le studio et il sortait et la guitare acoustique et la classique et le dobro et la basse et la guitare électrique et de toutes les dates, de toutes les anciennetés et il composait par couches successives comme ça, c'était magnifique à voir.
Ce qui fait que pour porter ce roman alentour, en dehors du strict lecteur, vous avez quand même possibilité d'offrir un spectacle, d'offrir de la musique à la
Damasio. Oui, c'est ce qui est chouette, c'est-à-dire qu'on part dans une sorte de mini-tournée des librairies, mais aussi des festivals et parfois des salles de théâtre ou de concerts. Et Yann nous accompagne et parfois donc on produit un concert, c'est qu'on fait entendre le texte qui moi me manque souvent dans les rencontres débats où voilà on va discuter du livre autour du livre et à aucun moment on entend voilà ce qu'est le texte, ce que le texte porte, ses sonances, son rythme, sa vitalité et là ça nous permet voilà de porter non seulement un discours autour du texte mais de porter tout simplement le texte par ma voix et puis bien sûr la musique de Yann Péchin.
Alors Alain Damasio, troisième roman, le premier La Zone du Dehors, 1999, La Horde du Contrevent, qui nous a tous soufflé, le jeu de mots vaut ce qu'il vaut, en 2004, et puis C'est Furtif en 2019, 15 ans plus tard. Vous faites un peu penser à Guyotat, comme ça, qui s'isolait dans des lieux sauvages, peu littéraires apparemment, des bergeries, des forêts, des déserts, des zones comme ça, un peu en dehors des villes, en dehors des réseaux, pour accoucher calmement, mûrir dans une espèce de paix intérieure ou de guerre intérieure, qu'on puisse enfin entendre sa propre guerre intérieure. Est-ce que c'est un peu comme ça que vous travaillez?
Moi, j'ai essayé pendant 15 ans, enfin, j'ai donc eu une fille puis une deuxième fille, et j'ai essayé pendant, oui, allez, près de 10 ans, on va dire, d'écrire à la maison, d'écrire dans un cadre qui soit pas un cadre d'immersion et d'isolement total. Je me suis rendu compte au bout de 10 ans que j'y arrivais vraiment pas, et que malgré tous mes efforts pour me transformer. Je devais retrouver ce que j'avais utilisé pour la Horde du Contrevent, c'est-à-dire vraiment en isolement dans le maquis corse pendant 3 ans où je faisais quand même 15 à 20 jours tout seul par mois avant de revenir m'oxygéner à Paris. Donc là, j'ai refait la même chose à un moment donné, mais je pouvais pas partir aussi longtemps hein, sans que ma famille me saute dessus. Donc j'ai effectivement, je suis parti dans le Vercors, dans le Verdon, à Porquerolles, à Ouessant, à Groix, dans des zones où généralement je suis complètement seul, voilà, pour marcher, pour m'isoler et pour avoir l'espace pour que l'univers se dilate. Moi, il y a un mot que j'adore, que j'admire profondément de Rainer Maria Rilke quand il dit voilà, être dans le travail comme un noyau dans son fruit. C'est vraiment la plus belle image, je trouve, pour décrire ce qu'est le travail de création. C'est qu'on est vraiment, voilà, on est vraiment un noyau dans un fruit. On sent le fruit se dilater, mûrir, grandir jusqu'à la maturité. Et si t'es pas dans ce noyau-là, ben, tu n'arrives pas réellement, enfin, en tout cas, moi, j'arrive pas réellement à créer. Et j'arrive pas à trouver les conditions d'énergie optimum pour créer et qui me demandent, moi, de la randonnée, que ce soit à vélo ou à pied. Pour avoir l'énergie vraiment du gel matin et pouvoir...
Une capacité surtout à bâtir vos journées comme vous l'entendez.
Voilà,
je pense aussi
à
une parole d'Henri Michaud qui dit « On crie pour taire en soi le cri ». Et vous, vous faites le contraire, vous faites le silence plus absolu pour entendre au mieux votre cri à l'intérieur.
Ouais, et puis de plus en plus... Avant, par exemple, je pouvais écrire en musique. Maintenant, je n'y arrive plus. Il faut vraiment que mon rythme se dilate tout seul, sans aucune perturbation autour.
Alors c'est furtif, Jean-Luc Rivera, on peut tenter de résumer, oui je pense qu'on peut résumer l'histoire pour nos auditeurs qui n'ont pas encore lu ou qui sont en train de le lire, sans trop en dire,
disons que à la base nous sommes dans une société future où tout se vend et tout s'achète, tout a été privatisé et un couple a perdu son enfant et c'est la quête de l'enfant perdu, la mère pensant que l'enfant est morte, le père pensant qu'elle est toujours vivante, et pour ce faire, il va intégrer un corps d'élite secret de l'armée qui chasse ce qu'on appelle les furtifs. Alors les furtifs, ce seraient ces créatures, ces animaux qui vivraient dans les interstices de la société aussi bien au physique qu'au mental. Et donc, est-ce une légende urbaine, les furtifs, ou est-ce une réalité derrière? Et c'est ce qu'on va découvrir, comme vous l'avez dit, en 688 pages d'une langue qui est d'une richesse absolument extraordinaire.
On va parler de la langue, bien sûr, mais on va d'abord parler du récit lui-même. Il y a un concept fort dans ce récit, Alain Damasio, c'est celui d'angle mort. Alors, l'angle mort, c'est effectivement ce qu'on ne capte pas quand on est une caméra de surveillance et d'hyper-contrôle. C'est ce que les contrôleurs ne voient pas. C'est ce qui ne peut être filmé. Ça renvoie aussi à l'idée, vous avez participé à un recueil d'une nouvelle sur les mauvaises herbes, ça renvoie aussi à l'idée des friches, les angles morts du monde, les angles morts des villes, des endroits qui n'ont pas été de nouveau mis en coupe réglée, rendu à l'exploitation marchande et autres. Donc déjà, j'aime bien cette idée d'angle mort et les furtifs dont parlait notre ami Rivera, c'est un peu ça. C'est beaucoup plus que des créatures qu'on ne peut pas capter, c'est véritablement une fonction quasi ontologique.
Oui, et c'est vraiment comme ça que je les ai bâtis au tout début. C'est-à-dire une des premières phrases que j'ai marquées dans un des premiers cahiers, parce que j'écris sur cahier pendant longtemps avant de commencer vraiment à écrire. Et c'était vraiment ça, c'était l'angle mort et leur lieu de vie. C'est-à-dire que j'étais dans l'idée que, bon, voilà, le régime de contrôle dans lequel on est entré depuis, on va dire, les années 90, et puis qui se déploie, qui devient sporulent à partir de l'émergence des réseaux d'Internet et de la généralisation du smartphone. Ce monde-là qui ne nous laisse plus surfer, chatter, échanger, parler, bouger dans la ville sans prélever des traces corrélatives. Je me disais, mais comment trouver un envers à ça? Comment trouver un envers métaphorique et en même temps physique incarné? Parce que souvent, ce que disait Serge Lehmann, j'aimais beaucoup, c'est que l'auteur de science-fiction écrase dans le réel ou fait tomber comme un oiseau en piqué dans le réel des concepts et les rend opératoires dans un récit. C'est-à-dire qu'il réalise les concepts. Mmh. Moi, j'aime bien dire il réalise les concepts parce que c'est ça, il les rend réels et les rend opératoires. Et je cherchais une figure comme ça qui puisse réaliser l'aspect échappatoire au contrôle. Donc ces furtifs viennent incarner effectivement cette figure-là, comme cette figure de interstitielle, de friche, d'angle mort. Et c'est pas vraiment des marges, c'est plus, Je trouve que les marges ont été rognées de plus en plus par ce système très totalisant qu'est le capitalisme, qui n'est pas totalitaire mais totalisant. En tout cas, c'est comme une eau qui se répand partout. Et je cherchais, voilà, à dire, ben on va trouver des petits points de rouille dans la plaque de métal du capitalisme ou des petits interstices dans lequel tout d'un coup émerge en plus la forme la plus haute du vivant, puisque c'est comme ça que j'ai essayé de les construire. Et c'est comme ça qu'est né effectivement le. Mais donc le sanglement est très important.
Par une séance de chasse aux furtifs, et on ne les attrape que morts. Nicolas Martin.
Oui, il y a plusieurs choses moi que je trouve passionnantes dans ce roman. Mais il y a quelque chose sur lequel j'aimerais bien revenir avec vous autour justement de ce rapport que vous avez et qu'on avait un peu abordé ensemble précédemment autour de la technologie. Parce qu'effectivement, la société de contrôle que vous décrivez, dont vous venez de parler, c'est une attitude presque à l'Auguste Comte, un peu technophobe. Et en même temps, il y a vraiment dans ce roman une ambivalence vis-à-vis de cette technologie parce que on sent bien qu'elle est totalitariste ou totalitaire ou totalisante et en même temps elle est strictement indispensable et du coup on a l'impression que même vous naviguez un peu entre ces deux pôles sans savoir exactement quoi en faire et comment se l'approprier.
Moi je crois vraiment, ça c'est une conviction profonde d'écrivain et d'artiste, tu ne parles bien que ce qui te pose problème, voilà, que ce qui te traverse et les choses pour lesquelles c'est vraiment un enjeu intime, un enjeu quotidien. Donc voilà, tu n'en as pas fini. Moi, j'en ai pas fini du tout avec la technologie, au sens où voilà, on est traversé, on est dans un monde anthropotechnique massif. Peut-être on est à l'acmé même de ce monde anthropotechnique si on considère que l'épuisement des métaux précieux, des terres rares et même des ressources carbonées va nous faire redescendre vers du low-tech ou en tout cas une société moins technologique. On est peut-être à un âge d'or, voilà, une acmé. Et du coup, la science-fiction qui est vraiment effectivement l'art d'interroger ce fait technologique et de montrer comment ce fait technologique transforme l'homme, en tout cas renouvelle l'homme. Du coup, j'ai une position ultra ambiguë, voilà, que j'appelle technocritique, mais au sens, pas au sens où je critique la technologie, mais au sens où j'essaye de distinguer et de trouver un art de vivre technologique. Voilà, je crois que c'est ça que j'essaye de mettre en place sans le vouloir, une sorte d'épicurisme technologique où j'arriverai à distinguer ce qui relève de la technologie inutile, enfermante, addictive, stupide, et la technologie qui au contraire nous ouvre le monde, nous empuissante et nous permet de vivre de façon encore plus riche, quoi. Et je suis vraiment entre les deux, et c'est pour ça que la figure du hacker m'intéresse beaucoup et que la notion de bricolage, vraiment de réappropriation de la technique, de façon de s'en servir. Et il y a toute la scène comme ça à Porquerolles où il trafique tout un ensemble à la Mad Max, un peu tout un ensemble d'outils liés à l'eau, liés et ça m'éclate tout autant que... Mais par contre, oui, la technologie fermée, imposée, qui nous rend, voilà, comme disait Illich, hétéronome, c'est-à-dire la technologie sur laquelle tu n'as aucun pouvoir, aucune indépendance, ça, oui, ça m'exaspère beaucoup. Mais je suis au milieu de ce champ-là. Ouais.
Dès que tu descendais dans la rue, dans toute ville privatisée, tu te prenais systématiquement trois vagues, les taxils, les vendiants et les drones. Et quand tu refusais comme moi la bague au doigt, à l'instar des 4% de renégats qui préféraient encore être libres que choyés, ça devenait rapidement difficile à supporter. Sans bague, tu n'avais pas d'identité pour les capteurs, les senseurs, le réseau. Pas de profil, pas de préférence, pas de personnalisation possible de la sollicitation ou du DLC en paix. Pour les taxils, par exemple, rien n'indiquait si tu allais prendre le tram ou sortir ta trottine, ou si tu faisais partie de ces anomalies écolâtres, pire, de ces pauvres, qui préféraient encore marcher que rouler. Alors les taxis autonomes décrochaient du trafic pour longer ton trottoir et te demander d'un flux d'enceinte directionnelle si tu souhaitais une course, une fois, 10 fois, 20 fois, autant dire qu'il m'arrivait de craquer et de lâcher un coup de pompe dans une portière, ce qui me valait des amendes pour dégradation, car tout était évidemment filmé. Voilà un extrait des Furtifs d'Alain Damasio, notre invité ce soir à Mauvais Genre sur France Culture. Ah oui, parce qu'on est bagué, Alain Damasio.
Ah oui.
On est bagué. On dit souvent, ah ben, un tel, il est bagué pour dire qu'il est marié, mais là, on est marié à la société de consommation et à la grosse structure, à la grande machine.
Oui, on est marié au technocapitalisme, et même dans l'évolution des bagues, on arrive bientôt à l'anneau qui me permet une belle blague sur un seul anneau pour les gouverner tous, qui est la blague, évidemment, old fashion de cet univers-là, parce qu'on est en 2040. Mais oui, le principe, c'était de dire, je voulais, au niveau de la dystopie, enfin, du côté dystopie technologique, je voulais quelque chose d'assez sobre et fondé sur la miniaturisation. C'est-à-dire de dire, on va vers des bijoux connectés, effectivement. Donc, on a des oreillines sur les oreilles, juste un petit piercing qui permet d'écouter. On n'a plus besoin de casque. On a un piercing dans le nez qui sert de micro. On n'a plus besoin de micro pour parler. Et puis, on a ces bagues qui, effectivement, concentrent la totalité de notre identité et qui nous permettent surtout de fluidifier nos vies de façon extraordinaire, parce qu'on peut payer avec la bague, on peut circuler avec la bague, on peut aller dans les espaces autorisés dans cette ville avec la bague. Et bien sûr, ça a un coût, en tout cas un coût pour nos vies privées et pour notre traçabilité, puisqu'on est parfaitement et exhaustivement tracé dès qu'on porte la bague. Et on se retrouve dans cette situation de renégat dès qu'on refuse de l'adopter. Et c'est des expériences quotidiennes que moi j'ai aussi. J'ai mon navigateur Firefox sur lequel j'efface régulièrement tous les cookies, toutes les... Et dès que je retourne sur Mediapart, il me faut réinscrire tous les mots de passe. Il faut sans arrêt... Et Google me redemande 15 fois de valider ce système d'autorisation, etc. Et donc ce côté extrêmement pénible, mais qui est la condition pour en tout cas pas avoir sa vie privée repaillée sur le réseau. Bon, j'ai voulu la mettre en scène aussi dans la ville, puisque c'est vers ça qu'on va aussi. C'est-à-dire que c'est la Smart City, c'est l'Internet des objets, c'est-à-dire c'est des capteurs dans la ville, des senseurs, etc. Et tout ce qu'on vit sur les réseaux de façon très immatérielle est appelé à devenir très matériel et concret dans la ville. En tout cas, c'est un des rêves du technocapitaliste, je pense.
Jean-Luc Rivera.
En même temps, ce qui m'a frappé en lisant votre roman et qui évoque effectivement des choses qui existent déjà, comme ce qui commence en Chine, par exemple, et tout, ce qui m'a frappé, c'est que finalement, cette interconnexion poussée à l'extrême fait que les gens vivent dans des bulles. Ils ont chacun leur moi. Je ne résiste pas à ça, my own assistant. Et donc, chacun en fait... vit totalement isolé et finalement déconnecté du monde autour, puisqu'il est dans sa propre bulle.
Oui, ça c'est vraiment un thème majeur, en tout cas du livre. C'était quelque chose que je voulais vraiment mettre en scène. C'est-à-dire que j'ai vraiment une... Pour moi, il y a des tendances lourdes. Et une des tendances lourdes que j'entrevois, peut-être à tort, hein, mais c'est vraiment l'intelligence artificielle personnalisée. C'est-à-dire de dire, et on le voit hein, sur les GAFA, ils ont tous mis en place un début de... l'intelligence artificielle en langage naturel avec lequel on va communiquer et qui va prélever effectivement toutes les traces, mais aussi qui va vous permettre d'interagir avec le monde. Donc, ça s'appelle Alexia, ça s'appelle Siri, ça s'appelle Google Home, ça s'appelle ce que vous voulez, Cortana, selon chacun a le sien. Mais ça, je trouve que c'est une tendance forte et on le voit apparaître pour la première fois, je trouve, en SF dans le film Her de Spike Jonze, mais et on le voit une deuxième fois aussi dans Blade Runner 2049, signe que voilà, les artistes sont en train de sentir, comme moi aussi je l'ai fait, que ça vient. Et j'ai cherché longtemps le mot, parce que je voulais traduire cette idée de moi, effectivement, d'alter ego numérique, de jumeau digital. Et puis, il y avait ce terme de Jean-Claude Dunia, que j'aime beaucoup aussi, de matrice attentive, qui est un très beau terme, c'est-à-dire, voilà, trouver. Et le premier terme que j'avais mis, c'était MUM, My Unique Machine, c'est-à-dire de dire, on va faire converger toutes les technologies sur une seule, qui sera en langage naturel, parce qu'anthropologiquement, c'est comme ça que l'homme communique, quoi. Donc c'est vers ça qu'on va venir. C'est même pas le toucher, c'est même pas comme aujourd'hui la souris, le toucher, le tactile. Non, on va revenir, je pense, à la voix quand le système sera suffisamment fort. Et je me disais, mais qu'est-ce que ça va produire sociologiquement, psychologiquement, si notre première interface au monde, elle est cette intelligence artificielle qu'on va forcément projeter, comme dans Her, tous nos fantasmes, tous nos rêves, on va en faire soit notre maman, soit notre père disciplinaire, soit notre espèce de buddy ou de copain qui va nous parler, soit notre fantasme féminin. Enfin voilà, il y a plein de façons dont on va... mais ça, je trouvais que c'était vraiment intéressant de le montrer, et de montrer comment c'est très pervers et qu'on peut l'accepter très vite aussi. Ouais.
Nicolas Martin.
Même, c'est intéressant parce que vous parlez à Alain Damasio, vous dites l'ère de Big Brother est dépassée. Aujourd'hui, c'est Big Mother, c'est-à-dire que ce totalitarisme numérique, il est féminin, matriarcal, il est régressif. Il est oedipien.
Ouais, il est oedipien. Et puis ça a été la façon par lequel on l'a très bien accepté. Big Brother, c'est vraiment l'image du l'image du pouvoir disciplinaire, autoritaire, hiérarchique qui sort de cette société disciplinaire que Foucault a si bien décrit. Passant en régime de contrôle, oui, la figure mute, et je trouve qu'on va vers une figure maternante, choyante, qui est vraiment cette idée de cocon, moi, auquel je tiens beaucoup, le mot techno-cocon, même dans sa forme, dans ses sons très, très ronds, très fermés, montre bien qu'on est, voilà, dans une sorte de chrysalide de fibre optique, ou d'oignons technologiques avec plein de couches différentes, et dans lequel on est bien, en réalité. On est bien. Ça nous protège des agressions, ça nous protège parfois même des sollicitations, ça nous permet d'avoir une régie de contrôle sur le monde. Ça nous filtre nos communautés, ça permet plein de choses. Ça nous permet de nous orienter, ça permet... voilà. Mais progressivement, en faisant ça, on conjure l'altérité, on conjure l'extérieur, on conjure le dehors. Et moi, j'ai toujours pensé que cette confrontation à l'altérité, à l'autre, au pas de chez nous, à l'outre-soi, à ce qui n'est pas nous, était un élément de dignité et de vitalité de l'être humain. Donc, j'essaye de mettre en garde contre cette conforteresse, c'était Stéphane Beauverger qui disait ça, j'adore ce mot, cette conforteresse dans laquelle on est en train de s'auto-piéger, parce que personne ne met un pistolet dans la tempe pour adopter ces technologies, hein. C'est bien nous qui venons les empoigner pour fluidifier nos vies. Ouais.
Culture, mauvais genre, François Angelier.
Jim Kundalini, évidemment un choix de Laurent Polleret pour notre playlist furtive de ce soir à Mauvais genre. Alors, on a évoqué là, je dirais, les puissances Big Mother, les puissances d'asservissement, d'hypercontrôle et de, je dirais, de capitalisme totalisant. Il y a évidemment un contre-pouvoir qui se manifeste et ce qui est très intéressant, c'est que il se manifeste à la fois avec les moyens du pouvoir et en même temps en récupérant les chutes. Comme on dit, des chutes de matière, de matériaux, il récupère les chutes, tout ce qui est considéré comme obsolète, inutile, pour essayer de construire quelque chose qui répond, c'est la réponse de l'archaïque à l'hypermodernisme,
Alain Damasio. Alors, je ne sais pas si c'est l'archaïque ou si c'est encore le...
L'archaïque est-il la seule réponse possible ou y en a-t-il une autre?
Ah non, je pense qu'il y en a d'autres. Dans le livre, en fait, c'est... J'essaye de sortir du dualisme hiérarchique, vraiment de quelque chose de très manichéen, très binaire, en disant bon voilà, on va faire de l'anticapitalisme et puis tout va être solutionné. Je pense que la façon de s'en sortir est forcément plurielle ou plurale et qu'elle va se traduire par beaucoup d'initiatives très très différentes. Et j'essaye d'en montrer quelques-unes, d'en tracer quelques-unes, comme la Céleste, ce mouvement qui se sert des toits comme un espace de liberté, ces toits reliés à la copropriété qui les accueille, sur lequel ils font des ateliers, sur lequel ils s'installent, sur lequel ils circulent, et ils créent même des nouvelles rues, des nouvelles voies aériennes en parapente. Je parle de la Céleste, ce mouvement d'architectes qui crée dans les interstices de la ville aussi des cabanes, des lieux pour abriter les migrants, les sans-logis, etc. Et puis qui défendent ces lieux pour pas qu'ils soient brisés et pour qu'ils s'installent, qu'ils s'inscrivent et qu'ils font construire ces lieux par ceux-mêmes qui vont les habiter. Enfin, il y a plein de petites idées comme ça. On en parle aussi après beaucoup à Porquerolles. Il y a plein de choses. Mais je voulais vraiment montrer des pistes différentes, des pistes ouvertes, pas retomber dans l'espèce de gourouisation en vous disant voilà le communisme qui vient, voilà la façon dont les choses doivent se passer. Je trouve ça complètement absurde. C'est, on est une société très libre, très ouverte, sur laquelle il y a beaucoup de sensibilité, de goût, mais simplement de dire voilà. Comment cette gerbe vitale peut éclater et ouvrir des nouveaux modes de vie. Et puis, il y a bien sûr les furtifs eux-mêmes qui incarnent, pour moi, cette un peu plus haute figure comme ça du vivant, et une hybridation possible avec cette vitalité-là permettrait de sortir, je le dis à un moment donné, mais un peu le miracle de sortir l'homme de l'anthropocène, c'est-à-dire d'arriver en disant bah on va pas sortir de l'anthropocène par le technocène, mais on va sortir par un renouement avec les formes vivantes, que ce soit animales, végétales, que ce soit des biotopes.
Jean-Luc Rivera.
Oui, ce qui m'a frappé effectivement, c'est la variété des solutions alternatives que vous proposez, et qui effectivement, moi j'emploierais pas le terme d'archaïque comme l'a fait François Angelier, mais on s'aperçoit qu'il y a en fait une sorte de dualité, c'est que en fait on utilise tout ce qui peut servir, et on a à la fois des hackers et des techniciens qui sont à l'extrême pointe, qui sont même plus forts que les gens de l'armée ou des sociétés privées,
c'est vrai.
Et en même temps qui utilisent parfois des techniques qui sont tellement obsolètes que du coup les sociétés privées, les milices ne peuvent pas, je pense par exemple à l'utilisation du papier qui revient, parce qu'un papier ça laisse pas de traces, quand vous l'avez détruit il est détruit pour de bon.
Ouais,
donc il y a cette dualité.
Alain Damasio.
Oui, c'était un choc. J'avais lu une série d'articles qui s'appelait 21 degrés de liberté, c'est un pirate je crois islandais qui avait écrit ça. Il montrait les 21 degrés de liberté qu'on a perdu par rapport à nos parents, et dans un des premiers degrés de liberté, il parlait de la liberté de la correspondance, en disant quand vous mettiez une lettre en papier dans une enveloppe et qu'elle arrivait chez vous, personne ne l'ouvrait, voilà, sauf par miracle. Mais aujourd'hui, n'importe quel mail que vous envoyez, des moteurs et des IA les lisent. Donc, il disait, c'est un degré de liberté qu'on a perdu, dont on n'est même pas conscient. Et effectivement, on revient à l'idée que un morceau de papier, c'est pas en ligne, c'est pas sur le réseau, donc c'est pas récupérable. Donc, vous avez une chance d'échapper. Donc là, il y a un côté low-tech que j'aime bien, qui prend un peu le contre-pied du côté extrêmement technophile que l'ASF souvent défend.
Nicolas Martin.
C'est presque le point de départ de Battlestar Galactica. Ils arrivent à s'en sortir parce qu'ils ne sont pas en ligne.
Ouais, c'est vrai.
Ça, c'était juste une petite. Non, j'aimerais aussi parler avec vous, parce que c'est vrai que donc on a évoqué la musique, on va évidemment parler de l'écriture si puissante qui est la vôtre et si singulière. Et il y a un autre média qui se glisse dans les furtifs, c'est le jeu vidéo. Hein, vous avez travaillé sur Remember Me, qui était un très très bon jeu vidéo d'origine et de faction française. Et y a vraiment des passages, moi, dans les furtifs, qui m'ont fait penser exactement à des niveaux, hein, notamment quand Lorca s'échappe et va se cacher au tout début, se cacher justement pour échapper à la police dans un HLM. Aussi la première traque, pour ne pas trop avancer dans le livre, mais la première traque en terrain réel des furtifs, tout ça me fait beaucoup penser. Est-ce que vous l'avez vous-même envisagé comme ça? Est-ce que vous l'imaginez? Est-ce que votre imaginaire littéraire a été contaminé en quelque sorte par le jeu vidéo?
En fait, c'est une novélisation de Metal Gear Solid. Non, mais
plus pacifique.
Plus pacifique. Non, ce qui est intéressant, c'est que c'est un type de jeu, c'est-à-dire le stealth, ce qu'on appelle le stealth, qui veut dire furtif en anglais. Le stealth est une pratique de jeu, c'est un gameplay en fait. C'est comment échapper effectivement à la traque, par la dissimulation. Et quand tu réfléchis, c'est un affect extrêmement enfantin qu'on a tous, c'est le fameux cache-cache, c'est le fameux... Et moi, mes gamines jouent sans arrêt cache-cache et continuent à y jouer, que ce soit dans le noir ou pas dans le noir. Et j'aimais bien revenir à cet affect enfantin. Et forcément, il est présent dans le jeu vidéo. Et même les chasses aux furtifs dans le livre, il y a un élément qui est très vidéoludique dans la façon de chasser. On pourrait en faire un gameplay, et on avait d'ailleurs l'idée au tout début de faire dans des friches industrielles, de cacher des objets comme ça avec juste un petit émetteur, et que les gens rentrent et essayent de trouver le furtif à l'intérieur de la friche, mais il faudrait qu'ils puissent se bouger, quoi. C'est-à-dire on avait des délires comme ça de jeux vidéo. Mais oui, mais de toute façon on est influencé. Ben moi je suis influencé notamment sur les décors, les univers visuel par le cinéma ou la série télé, et puis bien sûr sur les dynamiques de récit, même d'action, par le jeu vidéo. C'est forcément, il y a une porosité qui est évidente.
De jouer encore, vous
avez... Non, je joue peu, et je joue à des vieux jeux par exemple. Je me suis
le
mis à jouer à Ico, là j'ai enfin récupéré la version ancienne. Donc et je le découvre avec mes filles, quoi. Je veux qu'elles rentrent par ce jeu-là dans le
Shadow of the Colossus.
Oui, et j'ai acheté les deux, ils sont ensemble, donc c'est bien. Je vais pouvoir mais non, j'ai peu de temps, je vais consacrer trop peu de temps sur le jeu.
Par son ampleur et sa variété mélodique, lexicale et sonore, le répertoire de Tichka dépassait l'entendement. Elle savait siffler une trentaine de chants d'oiseaux, imiter le campagnol, la chouette hulotte, la marthe qui ronronne, la fouine avec ses petits, tout autant que restituer à la quasi-perfection une gamme loufoque de sonneries de bagues, de sonales de marque, d'infomerciales de môles, simulées à la voix des freinages de glisseurs des drones de livraison, un flot épars de paroles dans le tram ou le brouhaha bourgeonnant d'un café bondé. Chaque chanson qu'elle avait pu entendre une fois, au hasard d'une trottine, d'un commerce ou d'un appart dans lequel elle avait dû se cacher, peu importe, elle savait la reproduire sans effort. Complètement épatée, Lorca lui demanda bientôt de faire l'obus. L'orage, le glissement d'une baie vitrée, le verdon la nuit, maman en colère, un bip-bip de poubelle mal triée, une cafière à ondes, une bague raclant nerveusement une table, un bruit de chaise sur un percoléum, une porte claquée, tout ce qui lui passait par la tête, et elle le fit. Voilà un second extrait des Furtifs de notre invité de ce soir, mauvais genre sur France Culture, Alain Damasio. Alors, l'autre évidemment, l'autre élément essentiel des Furtifs, Alain Damasio, on vient d'en la citer, c'est bien évidemment le travail phénoménal que vous avez exercé sur la langue française, à partir de la langue française, autour de la langue française, à la fois pour et contre elle, d'une certaine façon.
Et, ah oui, on et est puis, toujours mais, contre sa langue un peu.
Avant qu'on parle de la langue, j'aimerais qu'on parle d'une sorte de réhabilitation, de défense, illustration que vous faites de l'acoustique contre le scopique. On a l'impression que la société de contrôle et de surveillance, elle est liée à ce qu'on voit. C'est d'abord, évidemment, vous avez des on peut vous parler, on peut vous donner des heures, mais d'abord, c'est d'abord une société du vu, une société du visuel. D'ailleurs, le mot visuel est devenu prépondérant. Et là, il y a toute une réhabilitation de l'acoustique, et notamment une scène extraordinaire où à un moment, ils se rendent, les personnages principaux, donc Sahar et Lorca, se rendent dans une communauté de migrants balinais et assistent à une extraordinaire concert de gamelans. Et qui, là, il y a un moment comme ça, de grâce totale, littéraire. Donc, est-ce qu'il y a chez vous la volonté de réhabiliter ce qui était quand même une marque des vieilles sociétés françaises? Je pense à un texte de Lucien Febvre en tête de son livre sur l'irreligion, justement sur l'oreille, sur l'acoustique.
Complètement. C'est un choix extrêmement conscient et poussé tout au long du livre et ça structure pour moi complètement le livre. Un des premiers mots que j'avais mis aussi dans les cahiers, c'était destitution de l'optique, c'est-à-dire de dire je veux sortir du panoptique et comment je sors du panoptique. Et la grande réponse pour moi, effectivement, une des grandes réponses est dans le sonore et l'auditif. Moi, j'adore la radio. Je suis très content d'être là. Je vous le dis.
Nous également.
C'est pourquoi ? Parce que c'est vraiment un art qui te permet, et la fiction radiophonique et les fictions sonores, c'est un art qui te permet de fabriquer toi-même tes images à partir d'un autre sens qui est l'audition et la faculté d'utiliser un sens pour fabriquer un autre sens en fait par l'art du cerveau. Ça, je trouve que c'est une activité créative extraordinaire et très forte et qui fait que les imaginaires qui sont issus des fictions radiophoniques ou du son ou de la musique me paraissent plus amples, plus personnels aussi et plus vivants que les imaginaires qu'on nous pose à partir d'images préconstruites et dont on est saturé, il faut bien le dire, hein. Moi j'ai toujours sidéré par voir que on dans une ville comme Paris, on aurait 3000 impacts publicitaires visuels par jour quand on se balade dans le métro, dans la rue, etc. Et donc, vous imaginez le taux de harcèlement qu'on a et le taux de construction esthétique que ça nous donne, et notamment genrée. Donc, c'est quand même des choses assez tristes, assez atroces. Et je voulais vraiment que la liberté, et notamment la liberté furtive, s'exprime dans cette idée. Donc, d'où le syndrome de la Gorgone, d'où le fait qu'on peut pas les voir sans les tuer. J'avais été frappé aussi par des études militaires qui montraient que l'art de l'armée aujourd'hui, c'est voir. Si tu vois, tu tues. Parce que la capacité de toucher avec un missile à tête chercheuse, elle est extraordinaire. Donc, si tu ne peux pas brouiller, si tu ne peux pas leurrer, eh ben, tu tues. Donc, voir, c'est tuer, vraiment. Donc, il y avait cette idée-là, très forte. Et du coup, je mets en place, effectivement, l'auditif comme vraiment l'espace d'émancipation par excellence. Et comme le mode de communication principal, sinon unique, qu'on peut avoir avec les furtifs, puisqu'on peut pas les voir sans les tuer, donc il faut bien leur parler, si on veut.
Jean-Luc Rivera.
Oui, et non seulement c'est la puissance du son, mais je trouve que quelque part, c'est la réhabilitation de ce qu'on appelait la puissance du verbe, ce qu'on trouvait même dans
avec
les...
Avec un V majuscule.
La puissance du verbe avec un V majuscule. C'est quasi biblique, quelque part, mais c'est aussi ce qu'on trouvait, c'est la puissance. D'ailleurs, vous utilisez le mot à un moment, on fait des invocations.
Ouais,
alors les invocations, c'est le vieux terme magique pour appeler le démon, mais en même temps ici, c'est l'importance, et c'est l'importance du son exact. Donc quelque part, il y a ce retour en arrière, on avait déjà trouvé avant la puissance de la magie du verbe.
Oui, oui, non, mais ça c'était vraiment fondamental, c'est-à-dire de pas être simplement dans l'exaltation de la langue écrite, quoi, qui est celle, malheureusement, du livre. C'est pour ça que moi, très vite, je suis allé sur scène et j'ai porté par la voix. Moi, je continue à penser comme beaucoup de gens. On fait tous de l'espèce de fiction anthropologique en se disant, mais on sait comment c'était au tout début. Mais voilà, je vais vous dire ce que je pense, moi. C'est qu'effectivement, il y a eu deux grands départs qui étaient qui était la rime et la poésie, c'est-à-dire comment fixer une mémoire en faisant revenir un certain nombre d'assonances et en créant une musicalité qui fait que ça va fixer dans les gens une mémoire, et c'est fondamental de construire une mémoire pour n'importe quelle communauté. Et puis le deuxième, on le sait, c'est le récit, quoi. C'est le récit qui, en articulant chronologiquement un certain nombre d'événements, fait que effectivement les gens eux aussi. Donc c'est cette dimension orale portée à la fois sur le narratif et sur l'aspect purement rythmique et physique du langage. Pour moi, c'est la source de tout, et c'est ce qui me donne envie d'écrire, et c'est ce qui me donne envie de faire de la poésie, et c'est ce qui fait que le livre est très habité par tout un jeu d'assonance, d'allitération, et puis de métathèse, de transformation du langage. Pour moi, c'est clé. Et il y a un mot clé pour moi dans le livre, c'est la sangle. À un moment donné, j'ai dit la sangle. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est cette convergence entre la langue et le sang, entre ce qui est le plus vital en nous, et cette fluidité que porterait la langue. Il y a vraiment, pour moi, c'est marrant, mais dans ce livre, il y a un moment donné, je l'ai pas utilisé vraiment, mais je me disais, mais quelles sont les trois grandes forces métamorphiques? Et j'étais en me disant, y a la langue, qui est une capacité incroyablement fluide d'échanger. Il y a l'argent. Il faudrait vraiment faire un grand livre sur l'argent, je pense. L'argent comme système d'essence géologique qui peut convertir tout en tout. Et puis, il y a l'eau d'un point de vue du vivant. J'avais beaucoup travaillé sur l'eau et la mémoire de l'eau dans un autre projet. Mais ces trois dynamiques, alors je les ai pas articulées vraiment, mais l'eau, l'argent et la langue, il y a quelque chose pour moi de commun dans la capacité métamorphique, dans la capacité...
L'argent dit aussi extrême. Liquide.
Voilà.
On fonctionne avec du liquide.
Et ça, on le sent un tout petit peu dans le roman, mais je trouve que vraiment ce qui peut s'opposer au capitalisme, c'est sa fluidité extraordinaire, parce que le capitalisme fonctionne parce qu'il est d'une fluidité fantastique. En réalité, il peut convertir n'importe quel service en n'importe quel objet. Enfin, il y a une capacité de convertibilité, de métamorphique de l'argent qui est extraordinaire. Et qu'est-ce qui peut y répondre sinon la langue elle-même? Et sauf que la langue, elle donne, et donner une parole à quelqu'un, c'est rien lui retirer, au contraire. Donc ça, il y a quelque chose. C'est le seul échange qui enrichit les deux échangeants. Alors que l'argent, c'est pas vraiment ça. Mais...
Nicolas Martin.
On peut évidemment parler dans les furtifs de votre rapport à la langue, évidemment à tout ce que vous venez de décrire, aussi à l'utilisation de la surponctuation.
Oui, oui.
Mais moi, il y a quelque chose sur lequel je voulais vous interroger aussi, c'est que cette transformation de la syntaxe. Et le jeu avec les temps, la fluidité des temps, puisque les personnages, à certains moments, c'est expliqué, donc on va pas livrer de clés, mais changent de temps pour s'exprimer, notamment Lorca passe au conditionnel.
Voilà, il faut dire à nos auditeurs que c'est un roman choral, comme était déjà du temps de la Horde du Contrôle. Vous aviez une fascination pour un roman choral. Vous voulez totalement sortir le roman de sa théologie, sa vision théologique, c'est-à-dire on avait déjà le débat avec Mauriac, le romancier omniscient qui pense à la place du personnage principal. Donc là, il y a véritablement un roman choral de six voix, et six voix que vous poussez dans leur subjectivité jusqu'au maximum, au point même de dépasser la dimension, je dirais, socio-psychologique de ce que peut être un personnage, pour l'incarner dans le spectacle de la page, comme vient de le dire Nicolas, dans la typographie, dans l'orthographe, dans la ponctuation, dans la syntaxe. Il y a véritablement une volonté que le personnage investisse complètement son texte.
Et voilà, et notamment autour de ces bouleversements du temps, et je voulais vous interroger là-dessus, parce que c'est vrai que c'est assez déroutant à la lecture au départ, et puis petit à petit on s'y habitue, et c'est une façon assez iconoclaste, en tout cas, effectivement, de donner une identité particulièrement, comme vient de le dire François, particulièrement renforcée à chacun de ces personnages.
Ouais, tout à fait. Mais là, c'est un gros travail, dans les cahiers ça prend beaucoup de place, c'est-à-dire que Quand j'ai défini les personnages, je définis, moi je travaille par des fiches personnages, donc on définit effectivement le look, l'apparence, les traumas, le passé, le réseau relationnel, le rapport furtif. Et puis j'ai un bloc qui s'appelle le bloc stylistique sur lequel je définis la syntaxe, je définis les types de sonances, les types de voyelles, de consonnes utilisées, et je définis aussi les temps, les conjugaisons. Parce que c'est extraordinairement important la façon dont les gens se rapportent au présent, ou au passé, ou au futur. Moi par exemple, je suis quelqu'un de très projectif, j'ai tendance à déjà me projeter sur ce qui va se passer demain, après, etc. Donc si j'avais un temps personnel en tant que personnage, ça serait le futur. Et il y a des gens qui sont extrêmement nostalgiques et qui sont en quelque sorte dans un imparfait permanent, ou même un passé simple où ils se rappellent tel événement un peu traumatique ou tel événement très fort et très... qui fonctionne par des pics comme ça, et pour lequel le passé simple est... Et puis il y a des gens qui sont dans le présent. Et quand on regarde les personnages, ils ont des dominantes de temporalité. Bon, sur leur cas, on va pas révéler tout ce qu'il y a dans le lit, mais cette espèce d'irréel du passé, c'est-à-dire ce conditionnel, ouais. Et parfois ce conditionnel passé, pour moi, traduisait la bifurcation intérieure du personnage. Il y a une partie de lui-même qui se furtive, qui se fait toucher et brider par la furtivité, et il rentre dans un domaine qui est génial du conditionnel, qui est cette potentialité permanente. Voilà. Le conditionnel, c'est l'art de la potentialité. Et moi, j'adore les temps, étudier les temps du français, c'est toujours très incroyable, parce que ça pose vraiment un rapport au monde, une relation au monde spécifique, quoi. Et bien sûr, une relation au temps. Mais le conditionnel est vraiment, pour moi, presque le temps de la science-fiction, au sens, c'est le temps qui permet le plus de potentialité rayonnante. Et j'ai adoré faire ces moments qui, tout d'un coup, je trouve, libèrent une poésie incroyable. Et quand j'avais travaillé, j'avais essayé en me disant, mais comment je vais traduire concrètement l'invocation furtive dans les personnages? Et tout d'un coup, c'est toujours comme ça, on travaille beaucoup rationnellement. Et puis, au moment où on est dans le jet, et tout d'un coup, me monte le conditionnel, je commence à l'appliquer et je vois que... Et là, il y avait un frisson énorme. Enfin, c'est le grand bonheur d'écriture. Je sens qu'il se passe quelque chose d'incroyable qui m'échappe complètement, que je peux pas complètement rationaliser après coup. Je peux essayer de vous dire, ouais, en fait, j'ai essayé de réfléchir. Non, en réalité, j'avais plusieurs possibilités. J'ai essayé le conditionnel et le conditionnel a émergé, a fonctionné. Et c'est ça les moments de grâce quand t'écris. Ouais.
Dernière question, Jean-Luc.
Alors, dernière question, après avoir salué quand même le tour de force typographique que représente le roman.
Et on salue Mathias Echner, voilà. L'éditeur.
Et Esther Zach.
Et la personne qui a corrigé les épreuves.
Qui a souffert pendant...
Je me suis demandé combien de relecteurs étaient devenus fous en faisant cela. Mais je pense qu'il serait intéressant aussi de parler des personnages, parce que vous avez quand même une équipe de personnages qui se forment. C'est une quête, une double quête, la quête de Tichka, la petite fille disparue, et la quête des furtifs. Et donc, qui s'articule autour de deux personnages principaux qui sont Lorca, dont on a déjà un petit peu parlé, qui est le père éploré, mais qui refuse la mort de sa fille, et la mère. Et ensuite, il y a toute cette équipe des traqueurs. Et là, vous mettez un certain nombre de personnages en scène, et il y en a un, alors, parce que je pense qu'on a dû beaucoup vous interroger sur pas mal de personnages principaux, mais moi, il y en a un qui m'a fasciné, c'est Acharvin, l'amiral Acharvin.
Acharvin. Oui, qui était un personnage de... Alors, on m'a fait une psychanalyse brute, il y a pas plus tard que deux jours là-dessus, comme figure du père très, très, très étrange. J'adorais cette idée d'un personnage qui soit incompréhensible, énigmatique, très bienveillant, mais dont on doute de la probité tout le long, jusqu'à comprendre à la fin pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il fait, quoi. Et j'aimais beaucoup, c'est des figures que j'ai rencontrées dans ma vie personnelle aussi, c'est-à-dire des figures de gens qui sont proches du pouvoir, mais qui ont une faculté de traîtrise. C'est Deleuze qui disait ça, que j'adore. Il dit c'est très dur d'être un traître, d'être un vrai traître, parce qu'être un traître, c'est créer, quoi. Et il dit on est rempli de tricheurs, on a une société de tricheurs, tricher tout le monde peut le faire, mais être un traître, c'est difficile. Et ce personnage d'Achavine, pour moi, c'est ça. C'est vraiment la figure du traître, donc la figure noble du traître, qui va utiliser toutes les normes, tout le système dans lequel il est, et qui arrive à ouvrir ce système vers autre chose et à permettre aux porteurs de vitalité de s'exprimer. Oui, j'aime beaucoup ce personnage.
Et qui a lui-même une personnalité très duelle. Il n'hésite pas à faire développer des technologies d'hyperpointe dans l'armée. Et en même temps, on découvre à un moment, quand il vit chez lui, il vit comme à la Renaissance.
Oui, exactement. Et il vit sans barrière. J'aimais beaucoup cette idée. C'est-à-dire qu'il refuse de mettre aucune barrière à sa propriété. Il veut que tout puisse circuler, tout puisse traverser, que ce soit les sangliers, que ce soit n'importe quel être. Et ça, j'aime beaucoup l'idée de voilà, d'un monde sans clôture qui est...
Mais c'est un personnage qui m'a fait penser, alors là, vous êtes assis, à Charles de Foucault. Je veux dire, pourquoi? Parce que ces vieux aristocrates français,
un peu,
totalement déphasés dans la Troisième République bourgeoise et pleinement capitalistes et qui en étaient fiers et qui vont recréer leur monde, soit aux confins du Sahara, soit dans les forêts d'Amérique du Sud, soit dans, créer des utopies absurdes, justement en Patagonie, se faire créer. On a l'impression de faire une espèce de personnage totalement d'utopie politique qui sont historiquement caduques, mais qui ont une énergie qui est toujours présente et qui la redistribue et qui la relance, qui la rejoue avec comme ça des utopies à l'intérieur du système ou aux franges du système.
C'est un roman très français finalement. Non mais c'est marrant, mais c'est là en vous écoutant, je me dis il y a des influences culturelles très profondes qui me traversent quoi, parce que moi effectivement j'étais pas conscient de ça.
C'est une hypothèse. Ouais. Alors effectivement sur la question de la langue, on est quand même fasciné parce que par moment le travail fait sur la typographie et la construction de la page décolle du sens, c'est-à-dire que ça devient un spectacle graphique pur. On a l'impression d'une œuvre en soi. Est-ce que par moment vous n'avez pas eu, on finira là-dessus, Alain Damasio, justement une espèce de tremblement entre le fait quand même d'écrire un roman en français et puis le fait de composer un système de signes comme un artiste graphiste. D'ailleurs, à un moment, la chose éclate puisque vous supprimez tout et vous gardez que les virgules.
Oui, oui, complètement. mais ça, donc, évidemment, je suis pas du tout le premier à avoir exploré cette piste, mais on l'oublie un peu, c'est-à-dire que beaucoup de gens parlent de l'assonance, parlent de la musique des mots, parlent de la musique de la syntaxe, parlent de ce que ça produit vraiment auditivement quand on exprime un texte, mais on parle pas de la dimension optique de la lettre, de la typographie et de la page. Alors bien sûr, on pense à Mallarmé, bien sûr, on pense
oui, ça, j'ai tout de suite pensé.
Voilà, aux poètes lettristes, on pense aux calligrammes d'Apollinaire. Qui sont des expériences, on pense à la Maison des Feuilles de Danielewski, qui pour moi ont été des vraies influences, hein, pour le coup. Et moi, quand on parle du livre numérique, je dis aux gens, mais c'est très bien le livre numérique, pour moi c'est le transhumanisme de la littérature, c'est-à-dire que, en réalité, on n'a pas du tout été au bout de la forme livre, c'est-à-dire que la forme livre et la forme typographique, on est très loin d'avoir exploré tout ce qu'on peut faire avec, en termes de caractérisation, en termes de... Donc la dimension optique des lettres dans la page, de la ponctuation... Le ce que ça produit comme spectacle, effectivement, parce que ça, là, pour le coup, c'est un spectacle littéraire et très précieux. Ouais.
Alors, la grande aventure d'Alain Damasio dans Les Furtifs, une aventure à la fois politique, philosophique, graphique et bien évidemment littéraire. Le livre à lire, évidemment, d'urgence. Alain Damasio, Les Furtifs, c'est aux éditions La Volte. On termine avec un autre maquisard, Christophe Beer.
10 ans après divertir et dominer la culture de masse contre les peuples, L'Échappée publie un second volume dans sa collection Pour en finir avec, regroupant des essais d'une radicalité essentielle face à un système capitaliste qui se nourrit même de sa critique. Quelques affirmations sont discutables. Faut-il voir dans le gore extrême du cinéma d'horreur une abjection qui détruit toute morale? Faut-il refuser au cinéma pornographique la moindre valeur artistique, lui attribuant un même objectif de nuisance? L'existentiel Devil in Miss Jones y est stigmatisé pour les 3 millions de dollars rapportés à sa sortie, sans plus d'analyse. Mais dans d'autres chapitres, la démonstration convainc, plus rigoureuse, alertant contre l'invasion du virtuel dans les musées qui supplante l'expérience de la contemplation des œuvres originales et les réduit à des produits numérisés. Les procédés techniques passionnent désormais plus les visiteurs que les œuvres qui dépendent de ceux-ci. Arrow également sur le consumérisme qui exalte l'éphémère et l'immédiateté, empêche les consommateurs à consacrer trop de temps à un même objet, les rend impatients et irritables, esclaves d'un état d'excitation permanent. Mail, SMS, réseaux sociaux, connexions de toutes les nanosecondes feront de nous l'homme éclaté des temps nouveaux, assujetti aux pulsions du marché, un mutant technologique bientôt privé de sommeil. Grâce à l'étude du bruant à gorge blanche, oiseau pouvant rester éveillé jusqu'à 7 jours en période de migration, des chercheurs nous préparent à la fête consumériste ininterrompue. La nuit, cet absurde moment d'inactive poésie, sera détruite par les néons artificiels de l'urbanisation. Je salue enfin le procès des séries télévisées, drogues dominantes, composées de mécaniques narratives formatées à des méthodes éprouvées de captation de l'attention, suscitant un état d'alerte tempéré par des répétitions prévisibles qui créent la fidélisation. Ils sont critiques d'art, sociologues, philosophes, anthropologues. Ils crient à contre-courant, abandonnés par les journalistes et intellectuels qui encensent le culte du fun et de la prétendue transgression. Pour les auteurs, les séries tant vénérées sont la forme d'un monde multiple, morcelé, fragmenté, mondialisé. Tout y est liquide, fragile, se défait et se refait, entretenant la versatilité d'individus sans ancrage ni profondeur. Critiquer les séries, c'est critiquer notre époque. Jetons-les donc par les fenêtres, par saison complète. Ne regardons pas la fin de Game of Thrones. C'est bien comme ça qu'on prononce. Écrasons les puces RFID intégrées dans les billets des musées. Retrouvons le regard critique. Retrouvons le sommeil, la contemplation et la beauté du silence.
Christophe Bir, Nicolas Martin, une seconde de réaction.
Je retrouve le silence, je ne dirai rien.
Merci Alain Damasio d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre. Essayons de nous revoir avant 15 ans, hein, ce serait
bien.
On va tenter. Voilà, bah donc à très très vite et au plus vite possible en tout cas. Bien évidemment, si vous n'avez pas compris qu'il faut lire, relire, faire lire et faire relire Les Furtifs d'Alain Damasio à La Volte, eh bien on ne peut plus rien pour vous. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Pollery, Alain Joubert, Siam Boutata, Claire-Martin Dugard, Céline Duchesnet, Jean-Luc Rivera, Nicolas Martin, Christophe Bir et François Angelier vous remercient d'avoir suivi cette émission à samedi prochain pour les Forbans de la Nuit et Network, donc pour un spécial DVD. D'ici là, bonne nuit à tous.